RMC.
PLM avec tous les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. On a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, on est ensemble jusqu'à minuit. Et puis à minuit, il y aura le RMC Poker Show, bien entendu. Ça vient de se terminer entre le Paris Saint-Germain et Rennes, victoire 4-1 des Parisiens. On rappelle les autres résultats de ce dimanche. En Ligue 1, Toulouse-Angers 0-0, Lyon qui est allé gagner 1-0 à Amiens et Montpellier qui a battu Caen 2-0. Ça va Pierre? Ça va Daniel?
Ça va messieurs.
Toi bien? Toi bien? On commence avec les 3 points.
Bah, essentiel, c'est 3 points.
Vamos con los 3 puntos.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Mais souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Tes 3 points, Daniel.
Premier et deuxième, c'est la première période
du PSG pénible. Et j'enchaîne directement avec le deuxième, qui est le réajustement tactique de Tourelle, qui a visiblement libéré l'équipe. Est-ce que c'est que ça? Ou aussi la prise de conscience, quand même, des joueurs qu'il fallait en faire un petit peu plus? En tout cas, ça a fluidifié le jeu et ça a rendu le match facile aux Parisiens. Je soulignerai aussi quand même, dans mon premier point, t'as vu comment je fais un aller-retour et tout, que Rennes est venu avec des intentions intéressantes en première période, il faudra aussi en parler. Et mon troisième point, je vais direct sur le match de Lyon. Je crois que Lyon est rentré dans sa dynamique deuxième partie de saison et que parfois de façon moyenne et plus souvent de façon bonne maintenant, ils gagnent leur match sans trop de soucis.
Tes trois points, Pierre.
Le premier va rejoindre un peu les deux premiers de Daniel, sauf que je vais tout mettre dans un même point. C'est on en a parlé pendant le match. C'est alors plus qu'un réajustement tactique, même si c'est ça, c'est le changement. Moi, j'ai envie de dire, je sais même pas s'ils ont voulu réajuster quelque chose ou si Tourelle a voulu essayer autre chose pour avoir plusieurs possibilités ensuite. Et j'ai beaucoup aimé ça, voilà, de voir le PSG capable de passer d'un système à un autre. On en parlera, on détaillera après. Et après, je vais individualiser un petit peu les paires. J'ai beaucoup aimé Thiago Silva ce soir derrière et j'ai beaucoup aimé Cavani devant. Voilà, c'est ce sera mon deuxième et troisième point. J'ai beaucoup aimé encore le et j'aurais pu aller sur Di Maria aussi, mais je reste sur Cavani.
Bah je donne mes trois points. Bah moi ça va être trois noms également, trois Parisiens comme toi Thiago Silva, comme toi Di Maria. Alors tu l'as pas dit, mais c'est vrai qu'il fait un très bon match. Mmh. Et alors l'autre, bah c'est l'info que Saber Desfarges nous a donné dans la soirée. Mais Neymar ne participera pas au 8e de finale aller de Ligue des Champions puisqu'il sera trop juste pour jouer ce match. Alors on sait que Tourelle était déjà très ému en conf de presse cette semaine où il expliquait qu'il était très triste, que le joueur était très triste également. Il devrait, selon toute vraisemblance, être absent pour le 8e de finale aller à Old Trafford.
Alors je peux, d'abord beaucoup se sont voulus rassurants et finalement bon, voilà.
Ouais, Pierre, tu peux jamais savoir à l'avance.
Non, mais ça.
De se prononcer avant d'avoir
c'est,
le.
C'est un gros coup dur, c'est le match important, t'as pas ton meilleur joueur, bon.
Mais t'as encore moyen de t'en sortir quand même, quoi. Ouais, voilà, c'est pas.
Surtout, tu peux faire un match aussi en réfléchissant tactiquement oui, pour sûr. Ne pas hypothéquer
c'est
tes
pour
chances.
Ça que c'est intéressant ce soir,
et
ce qui s'est passé.
Tu as le match retour qui est là, pour le coup, 3 semaines après.
15 jours?
Trois semaines. Les huitièmes de finale, c'est bien 3 semaines après.
C'est 12 février, je crois que c'est début mars.
Il y a 3 semaines entre les deux matchs?
En 8, le 6 mars,
les huitièmes,
voilà.
Ouais, autant pour moi.
Donc du 12 février au 6 mars, il y a 3 semaines. Normalement,
ouais, revenir,
tu dois pouvoir le récupérer pour ton retour.
Oui, sinon, ça va faire beaucoup. Ouais.
Voilà. Ouais,
c'est quand même mieux avec que sans. Ça, on est tous d'accord. Mais je donne les buteurs. Sûr. Je vous rappelle les buteurs de ce PSG Rennes, victoire 4-1 des Parisiens ce soir. Ça vient de se terminer. On le rappelle. Cavani à la 7e, égalisation de Mbaynang à la 28e. Di Maria à l'heure de jeu qui redonne l'avantage au Paris Saint-Germain. Mbappé 6 minutes plus tard. Et puis Cavani à la 71e minute de jeu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce match entre le PSG et Rennes? Vous voulez commencer par quoi d'ailleurs? La bon, première période
faire,
ou pas?
On peut déjà regarder chronologiquement ce qui s'est passé. D'abord, bon, Rennes envoie une sorte de message, c'est que tu peux venir sans mettre l'autobus. De toute façon, globalement et statistiquement, autobus ou pas autobus,
tu as très peu de chances
de battre le PSG, quoi qu'il en soit. Mais il n'empêche que ça peut donner quand même 2-3 idées, c'est que de toute façon, a priori, t'es inférieur. Mais ce que Rennes fait en première période, avec les joueurs techniques qu'il y a au milieu, d'essayer de ne pas s'affoler, de jouer et surtout de mettre de l'intensité, de jouer haut, d'essayer d'aller les chercher, tu fais une mi-temps qui se termine sur un partout. Alors ok, Paris a été certainement maladroit dans la concrétisation de ses phases offensives, ils n'ont pas été bons sur la première période, mais Rennes doit y être un petit peu pour quelque chose.
Mais carrément.
Et puis de toute façon, bus ou pas bus, Je le répète, tu risques de perdre. Autant essayer de faire ce qu'ils ont fait. Ce qui est un peu dommage, c'est que ce que tu fais en étant combatif, en essayant de presser, tu puisses pas le faire sur demi-temps.
Non, parce alors, que mais je crois que la différence,
tu peux pas le faire,
la différence, elle réside dans le fait que le Paris Saint-Germain a clairement élevé son niveau de jeu en seconde période.
Et a aussi changé son approche avec les trois dans l'axe. Ça. Déjà, franchement, ça fait moins défendre Bernat, qui a été catastrophique en première période, parce qu'il passait beaucoup de son côté. Et en passant beaucoup de son côté, putain, les bouillons qu'il a pris, c'était terrible. Parce que ça aussi, il faudra le retenir
Je vais parler d'un autre.
C'est que le PSG, où qu'il veuille aller cette saison, ce sera à 3 derrière.
Et ce qu'on voit depuis un petit moment, et on se pose souvent la question, est-ce que c'est possible, pas possible, Tourelle l'essaye souvent à ce poste-là en ce moment, c'est Dani Alves au milieu.
Moyen pour le coup, là. Alors,
il a fait des bons matchs, sauf que les matchs où il a été très bon, c'est des matchs où le Paris Saint-Germain a eu 75% du temps le ballon, a joué que bloc haut et n'a pas eu d'équipe en face, avec aujourd'hui comme Rennes a joué avec un bloc, ce qu'on appelle un bloc médian, tu vois.
Et Verratti, et si Verratti est pas là, Marquinhos,
Draxler. C'est la deuxième période où effectivement t'as eu Marquinhos et Draxler. Mais pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse tactique, Rennes a joué avec ce bloc médian, donc pas un bloc avec un pressing haut comme des fous, pas un bloc bas où tu attends, où tu mets le bus devant ton but. Non, un bloc médian où techniquement, Daniel l'a dit, t'as des joueurs qui sont capables quand t'arrives à les trouver dans le milieu de conserver. Et là, dans le jeu de passe Rennes, Dani Alves au milieu a été un peu plus en difficulté pour aller harceler, etc. C'est un super joueur de ballon. Il est très intelligent tactiquement dans des situations qui sont complètement maîtrisées collectivement par le PSG. Moi, je le dis depuis le début, j'ai plus de doutes sur sa capacité quand ils vont un peu subir à pouvoir mettre de l'intensité, à répéter les efforts, à mettre de l'impact, etc., etc. Et ça a été un petit début de ça en première période.
Mais tu vois,
seconde période, tu changes, tu mets Marquinhos, tu mets Draxler. Ça
tu vois ça comme du bricolage ou pour toi ça te plaît vraiment?
Non, c'est pas que c'est du bricolage, c'est une solution qui peut marcher en plus pour certains matchs. Et donc ça lui évite de mettre tout le temps la même doublette quand il a pas.
Sachant également que les fameux derniers détails qui sont en train de se régler pour l'arrivée de Leandro Paredes, hein, ça devrait se faire incessamment sous peu aussi.
Est-ce que Paredes qui signe demain,
il va jouer déjà
dans une semaine, il y a pas de match cette semaine, on est d'accord?
Non.
Donc tu as match le week-end prochain. Est-ce qu'il est dans le groupe? À mon avis, si tu comptes dessus, il va falloir quand même qu'il y soit.
Va le mettre rapidement dans le groupe. Ouais.
Voilà. Est-ce que le gars, tu pars dans l'idée qu'il est titulaire à Old Trafford le 12, est-ce qu'il peut rentrer immédiatement dans cette équipe, immédiatement dans les premières séances d'entraînement? La question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'il fait, enfin qu'est-ce qu'il pourrait faire plutôt que le 12 il soit titulaire, d'après toi?
Que le mec qui arrive.
Dès la première séance, il marque les esprits.
Un élément très important avant que tu répondes, Pierre. Le dernier match officiel qu'il a joué, c'est le 9 décembre. Non, mais c'est le 9 décembre la dernière fois qu'il a joué.
En plus, la seule chose qui pouvait faire qu'un joueur arrive dans l'effectif parisien maintenant à cette date-là et soit titulaire à la place de Marquinhos, de Draxler ou d'un Dani Alves même au milieu de terrain ou d'un Verratti s'il est remis, c'est que c'est un mec qui a un statut au-dessus de ces joueurs-là et quand il arrive, ça s'impose. Ce qui est pas le cas avec Paredes.
Et si dans les premières séances, le mec se montre très fort?
Non, je pense pas. Je pense pas parce que tu fous en l'air quand même quelque chose dans le groupe qui va être compliqué à foutre en l'air.
Mais tu fais comment si tu veux l'avoir déjà pour le huitième de finale?
Tu parles du match de
Manchester, le prochain, on va dire.
D'accord. C'est pas impossible qu'avant ça, il joue un match de Ligue 1 où on l'essaye, etc.
C'est vrai que là,
pour le match de Ligue des Champions,
quand tu le mets au milieu, là, dans le match de ce soir.
Il est bon, hein.
Il a tout de suite été bon. Il a rarement été pas bon.
Ouais, non, mais c'est
sûr. C'est toujours la même histoire. C'est que, dans le fameux gros match de Ligue des Champions avec l'intensité et le pressing et tout.
C'est contre Naples, je crois, où il joue là. C'est Liverpool.
Là, tu te dis que
il y a un des deux matchs où il est au milieu, je sais plus lequel. Mais où il est très bon.
J'ai un doute aussi.
Je crois que c'est Naples, hein, il me semble. Et il a été très bon aussi dans un gros match à ce poste-là et il est de mieux en mieux, je trouve, à ce poste-là.
Tiens les gars, on va accueillir Gabriel, supporter du Paris Saint-Germain qui nous a appelé au 32-16. Salut Gabriel.
Oui, bonsoir.
Salut Gabriel.
Alors Gabriel, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, de cette victoire du PSG 4-1 face à Rennes ce soir? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, ce soir?
Bon, on va pas parler de l'arbitrage, hein. Voilà.
Qui t'a marqué en premier, c'est un peu problématique quand même.
Non, c'est pas ça qui m'a marqué. Je plaisante là-dessus, Daniel. Non, ce qui m'a marqué, c'est que déjà en première mi-temps, le PSG dans un 4-4-2 inhabituel depuis le début de saison a joué un peu à la baballe, a vraiment manqué d'intensité et du coup, comme ils n'ont pas mis la même intensité que d'habitude, ça a laissé beaucoup d'espace aux Rennais. Alors, je pense que le double pivot Marquinhos, Daniel Alves, effectivement, c'est un test. Mais je pense que dans l'esprit de Tourelle, ça, c'est valable uniquement à L1. Parce que clairement, Daniel Alves, c'est pas un vrai 6. Pas non plus un vrai milieu central relayeur. Donc ça fait, bon, voilà, ça fait Leroy Michel en L1, mais clairement, en Ligue des Champions, ça ira pas. Donc, après, vous parliez de Paredes. Ce qui pourrait faire que Paredes joue tout de suite, bah, ça va dépendre de deux choses quand même, déjà. A priori, Neymar, donc ça semble mort pour Manchester United. Donc déjà, ça fait une absence qu'il va falloir compenser un peu plus haut sur le terrain. On sait que Draxler peut jouer à ce poste-là. C'est une chose. Deuxièmement, c'est Verratti. Alors, est-ce qu'il va être là ou pas? Ça aussi, c'est un point qui est important. Si Verratti est là, on va très certainement s'orienter vers un double pivot Verratti-Marquinhos, comme ça a déjà été aligné plusieurs fois en Ligue des Champions. Et puis les deux commencent à...
Bah, Verratti-Marquinhos, c'est la doublette contre Liverpool au Parc.
C'est ça. Et, ouais, et voilà, Draxler, c'était Naples. C'est bien ça.
Ouais.
Donc, moi je pense, enfin ça va dépendre de ça en fait. Si Verratti est disponible, ben voilà, ou alors il peut aussi aligner à Manchester United Marquinhos et Draxler. Hein.
Ouais, moi j'y crois plus pour l'instant. Mais
moi je le vois même à Old Trafford avec un milieu, avec un joueur presque de plus au milieu quoi. Après oui, comme ouais, Neymar n'est pas là, avec trois mecs offensifs, à savoir
Di Maria,
Mbappé, Cavani et au milieu, peut-être même que Draxler sera là aussi.
Ouais, moi j'y crois.
Bah moi je mettrais bien Draxler en 10 en animateur à la place de Neymar, et s'il sait le faire.
C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins de Draxler,
mais Verratti aussi, hein. Et la formule contre donc dans le PSG Liverpool et dans le match à Belgrade aussi.
Oui.
Ouais. Mmh. Voilà.
Bon, donc après on s'égare un peu, on est plus sur le match du soir du coup là.
Non mais après non, moi ce que j'ai bien apprécié, bon effectivement Tourelle a quand même repositionné les joueurs. Donc on voit aussi quand même l'adaptation.
Ouais, il a une capacité à réagir immédiatement quand ça va pas, parce que la première période, il faut quand même dire qu'elle est pas bonne.
Et les joueurs, ont la capacité aussi à s'y adapter maintenant, ce qui n'était pas possible. Apparemment, il y a encore un an, en début de saison avec Unai Emery, apparemment les joueurs suivaient pas quoi.
L'air de rien, Tourelle a réussi à mettre en place un système où tout le monde, en début de saison, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il fait, machin et tout ça. Au final, il a habitué régulièrement les joueurs à changer de système, et maintenant les mecs assez facilement. Ils switchent d'un système à l'autre sans que ça pose vraiment de problème dans le jeu. Et en deuxième mi-temps, on les a vus changer de système, donc, avec un replacement de Draxler un peu plus bas. Et tout de suite, ça a été complètement différent. Ils ont en plus mis l'intensité. Et puis, Rennes a été dépassé très rapidement. Les Rennais ont été dépassés. Et puis après, malgré tout, bon, Paris a des individualités qui sont quand même, pour le majoritairement, supérieures quand même aux individualités rennaises. Et après, derrière, ça fait la différence. Quand vous avez plus de déchets techniques ou moins, forcément, à un moment, ça passe.
Ok. Il y a un joueur qui t'a plus marqué, toi, ce soir aussi, ou pas, Gabriel? Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'on en a pas mal cité, notamment dans les trois points, mais il y a beaucoup de Parisiens qui ont été bons dans ce match-là.
Moi, j'aime beaucoup, de plus en plus. Je trouve que Bernat est vraiment très intéressant.
Ah non, à la première période, il est cata.
Non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, il s'est quand même repris. Après, celui qui m'a le plus marqué, c'est Mbappé, qui, pour une fois, a quand même été pas mal collectif. À multiplier les appels.
C'est on l'a vu et on l'espère meilleur que ce soir quand même Mbappé. Hein. Même si on a tous aimé le but qu'il offre à Cavani, c'est un très beau geste et tout, mais tiens, Mbappé est un joueur jeune, mais dans le match de ce soir par exemple, Neymar n'est pas là, donc ton patron technique n'est pas là. L'homme qui prend les choses en main, faut le souligner, c'est Di Maria. Qui pourtant ces dernières semaines,
je croyais que tu allais me dire justement c'est Mbappé. Et j'allais te dire,
ces dernières semaines, Di Maria m'avait souvent exaspéré par sa nonchalance ou parfois.
Ça fait 2-3 matchs qu'il est bon là.
Moi je le trouvais.
Après il est comme ça, il est cyclique, hein, Di Maria.
Ça fait deux trois matchs. Il est souvent meilleur sur les deuxièmes parties de saison.
Oui.
Mais là, est-ce qu'il y a relation de cause à effet? Dans justement le fait que Neymar absent, ils se disent bon ben au milieu celui qui a le profil du meneur c'est moi, je prends le jeu, c'est-à-dire j'organise un peu et tout.
Mais tu sais quoi,
si c'est le cas, si lui il arrive à se dire ça, tant mieux. Moi je trouve que
je sais même pas s'ils se le disent finalement, Daniel. Je pense que naturellement
tant mieux.
Forcément je pense que même inconsciemment tu le cherches quoi, régulièrement tu le cherches dans le jeu, et le jeu parisien penche vers Neymar parce que c'est un joueur en or, mais que t'as envie que le ballon passe par lui, parce que souvent quand il passe par lui ça a du
crâne. Logiquement en plus c'est naturel que ce soit lui.
Voilà. Après et là, logiquement je pense que tu redeviens un peu plus naturel.
Mais dans la même idée, Mbappé en revanche,
Non, mais c'est pas ce jeu, Daniel.
Je le trouve un peu discret. Il joue encore. Alors, vous me direz, mais oui, il est jeune et ça l'est. Mais bon, parfois, il joue encore comme un enfant, quoi.
Ouais. En première période, il est très axial. Il est très axial. Et pour moi, il est pas encore prêt à jouer un poste très axial comme ça à côté de Cavani. Et quand il part du côté, il bouffe les espaces devant lui et c'est 10 fois plus intéressant.
On remercie Gabriel, en tout cas, qui nous a appelé.
Non, mais il y a plein de situations où il a pas effacé en 1 contre 1, alors que c'est sa force et c'est là que tu l'attends.
Et c'est ce dont t'auras besoin contre Manchester.
Contre Manchester, vu la défense de Manchester.
Bah, t'as Luke Shaw en face de lui.
T'attends
c'est
au
un
moins,
des duels.
T'attends au moins, allez, 2 percées de Mbappé avec une sur 2, 50%, tu sais une qui fait la diff.
Alors tu sais quoi, j'en attends 2 ou 3, moi, sans ballon, c'est-à-dire des appels dans le dos de Luke Shaw par-dessus, et j'en attends une ou deux, mais vraiment du 1 contre 1 où il va pousser, où Luke Shaw, c'est pas son fort.
Un but qui vienne de sa vitesse et du fait que Manchester a une défense un peu lourde.
Si on se plante pas, il y a déjà 5-0, Daniel.
Non, moi j'ai dit 1. J'ai dit 1. Après peut-être qu'il se passera rien d'autre.
Je plaisante.
Mais lui, il va falloir profiter de lui.
Il faut profiter. Est-ce que vous parlez de défense, parlons un peu de la défense du PSG aussi. Il y a un nom que tu as cité tout à l'heure aussi, Pierre, c'est Thiago Silva.
Ah, il est
d'ailleurs,
très bon.
Je l'avais dit tout à l'heure dans le match.
Il est boss.
Voilà, il est le boss. Il y aura dans Transversal d'ailleurs un très bon sujet, un très bon document d'Adrien Lloriquet à suivre sur sa personnalité, l'aspect mental.
Est-ce qu'il y a corrélation entre le reportage qui a été fait dans Transversal et la bonne performance de Thiago Silva?
Adrien Lloriquet qui est
un peu le
porte-bonheur.
Ça fait un petit moment qu'il est bon, Thiago Silva, même le reportage est très intéressant sur la personnalité de Thiago Silva, mais je pense pas qu'il y ait de relation vraiment.
Mais c'est vrai qu'on retrouve le Thiago Silva, le fameux monstre
là tu le sens vraiment en confiance, alors tout dans toutes ses interventions défensives
et encore une fois
dans la façon dont il a apporté ce soir avec le ballon,
dans le piège trop vite. Le problème de Thiago Silva, quand tu dis d'abord on le retrouve, le problème c'est que je vois pas retrouve ou quand, parce
Manchester,
que
plutôt.
Il est arrivé avec ce surnom, mais c'est vieux maintenant, c'est il y a plus de 6 ans maintenant, et dans les gros matchs de Ligue des Champions il a été mieux cette année.
Oui,
clairement.
Le PSG
combats.
A quand même eu des matchs difficiles en phase de poule cette année.
À Naples, problème. Boulette,
quand même. Il y a la boulette, mais après le match en lui-même n'est pas mauvais. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que tu peux pas mettre tout le contenu du match derrière la boulette.
Je vous dis que comme chaque année, attendons
le match.
Le 8e de Ligue des Champions, c'est l'unique révélateur pour le PSG.
Sûr que s'il fait un mauvais match
avec espoir
le match contre Rennes,
qui est un quart, voilà. Savoir que contre Rennes il est bon en championnat, il lui est arrivé dans toutes ses années au PSG d'avoir des saisons où il était monstrueux en championnat. C'est en Ligue des Champions qu'on l'attend. Voilà. Lui, comme le PSG.
Oui,
comme lui, le leader, c'est le capitaine maintenant, évidemment, c'est toujours, chaque année, c'est la même histoire.
Et beaucoup de questions sur le hashtag RMC Live aussi. Alors, sur le couloir droit de la défense du PSG. Voilà. Il y a Guolo, notamment, qui nous dit, dites-moi, Kerrer, qu'est-ce qu'il a de plus que Meunier? C'est vrai qu'il y en a pas mal, finalement, de supporters du PSG qui se demandent pourquoi Kerrer joue et pourquoi Meunier a perdu sa place.
Alors, Meunier perd sa place parce qu'il est pas bon, mais qu'il la perde au profit d'un Kerrer qui est loin d'être extraordinaire
et dont c'est pas vraiment le poste.
C'est là que la question se justifie.
Ouais.
Alors est-ce que Tuchel kiffe Keller, j'en sais rien, parce qu'ils parlent en allemand tous les deux, je sais pas quoi, tu vois. Mais a priori, que Meunier la perde la place, moi ça m'étonne pas parce que je le trouve pas bon depuis le début de la saison.
Oh non, tu peux pas dire qu'il est pas bon.
Il est pas très bon Meunier. Franchement cette année.
Ah pardon, je crois qu'il parlait de Kerrer.
Mais Kerrer?
Si, alors moi je vais dire
il a fait un ou deux bons matchs,
une partie de la réponse quand t'as dit c'est pas vraiment son poste à droite, c'est qu'il offre une polyvalence dans un même match où tu peux t'adapter, enfin où il peut s'adapter pardon très très facilement à la défense à trois, mais en étant un des trois ou à droite, et ça pour moi c'est une vraie force pour Tourelle. Tu peux même imaginer à un moment donné le faire monter d'un cran au-dessus de la défense, ce que Meunier peut pas faire. Meunier tu le mets piston droit et basta, on est d'accord, tu le mets jamais dans les trois.
Plus, Meunier,
derrière
il faudrait peut-être le relancer, ça, l'aider et tout, parce que dans une défense où ils sont à trois dans l'axe et où pour le coup il est dans le couloir et pas dans un 4-4-2, c'est une place idéale pour lui,
il est bien, c'est ce qu'il préfère,
c'est une place idéale. Lui comme Jean-Bernard à gauche,
après Kerrer, je vous trouve dur, parce qu'il a même les gros matchs qu'il a eu à jouer, il a été bon. Hein. Au duel, etc.
Il a beaucoup alterné, bon, pas bon. C'est vrai qu'on a du mal à être très clair sur lui, c'est vrai.
Ouais.
Je sais pas, moi je trouve qu'il y a certaines relances notamment où tu sens que vraiment le mec c'est pas son poste.
Surtout les 4 pénaltys concédés, tu sens qu'il peut être sujet à boulette.
Bah, il peut progresser aussi, du coup, il est encore jeune aussi.
Ouais, mais là maintenant, il s'agit. Normalement, t'es pas au PSG pour progresser. Hein. T'es au PSG pour être top tout de suite.
Bah si quand même, sur un joueur comme ça, si.
Non.
Ah bah si, il faut qu'il passe.
T'es au PSG, t'es pas un mec en phase de progrès.
Mais si, ah non, je suis pas d'accord, Daniel.
Mais t'as
justement Kerrer est un
joueur. Si t'es titulaire au PSG en Ligue des Champions, t'es fait. T'es un mec
fait.
Ah non,
je suis pas d'accord.
T'es pas un mec qui doit se faire. Sinon, je suis pas vraiment d'accord.
Ah bah non, t'as encore une grosse part de progression.
Après, c'est un autre cycle, tu me diras aussi. Mais
non, mais on peut pas dire ça parce que. Mais tu sais quoi, Daniel? C'est ce qu'on attend d'un Verratti quand il arrive au PSG, que au PSG il continue à progresser et qu'il vienne très fort.
Verratti, c'était en 2012. Quel rapport?
Non, mais c'est ce que t'attendais de lui, je veux dire.
Non, mais le PSG, c'était à l'époque.
Mais aujourd'hui, un Kerrer,
c'est tout le monde qui devait se faire. Là, maintenant, tu dois prendre des mecs qui sont affirmés.
J'attends un Kerrer qui soit très très fort et beaucoup plus fort en 2019-2020 que cette saison. Je pense que ces joueurs-là peuvent progresser au PSG, au contraire.
Mais je te dis pas qu'il peut pas progresser. Je dis que le mec qui arrive, c'est mieux s'il est déjà affirmé.
Ah bah, faut un certain niveau, oui, très clairement.
Les gars, on a qu'à Christophe, autre supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. Salut Christophe.
Salut les gars.
Salut Christophe.
Alors je crois que toi t'es un peu alarmiste après l'info de la soirée, donc on le rappelle, Neymar qui devrait être absent pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester United à Old Trafford.
Ouais. Bah écoute, je suis ni optimiste ni pessimiste. Hein. De toute façon, c'est Manchester. Il faut pas penser que Manchester ça allait être facile. Maintenant, ce sera sans Neymar. J'ai peur que ce soit sans Neymar longtemps. Encore une fois. Parce que je suis pas persuadé qu'il fasse pas le match aller. À mon avis, il va être KO pendant, à mon avis, plusieurs semaines. Bon, ça va être un très beau match ouvert. Je suis pas inquiet. Hein. On a quand même une très belle attaque. Il faudrait pas d'autres blessés. Il faudrait qu'on se bouge un petit peu pour trouver un vrai récupérateur, parce que le gars qui nous emmène là, celui-là, excusez-moi les gars, mais je le connais pas du tout lui. Hein.
Paredes.
Lui, je l'ai même jamais vu jouer quoi. C'est un truc, je sais même pas qu'il joue au football ce type là, tu vois.
Bon, t'as pas regardé l'Europa League.
Non, je regarde pas l'Europa League. Mais d'un autre côté.
Mais toi, c'est vrai que tu l'as vu toi.
Ah bah oui.
Eh ben éclaire-le, notre ami. Dis-lui là, toi, tu l'as vu deux fois le Zénith, non?
Ouais, un peu plus parce que j'ai pas regardé Zénith que contre
Attends,
Bordeaux.
Attends, Christophe, il va te dire Pierre.
Donc je l'ai vu plus d'une fois, ouais. Non, écoute, c'est malheureusement, c'est comme tous ces autres milieux de terrain que chasse le PSG là cet hiver, c'est pour moi un milieu de terrain qui va apporter un petit quelque chose au PSG dans le nombre, dans l'effectif, mais pour moi, ce ne sera pas une vraie plus-value pour le milieu de terrain parisien.
Alors c'est déjà
c'est un milieu, pour moi c'est plus un milieu comme Marco Verratti, tu vois, un peu plus haut que ta sentinelle déjà. Faut pas s'attendre à ce
mon avis lui c'est le remplaçant de Rabiot.
Ouais, voilà, un petit peu si tu veux.
Lui c'est le remplaçant.
C'est pas le boss du milieu de terrain comme pouvait l'être Mota devant la défense, tu vois, c'est pas du tout ce profil là.
Daniel Alors, et Pierre, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire quelque chose. C'est qui l'entraîneur de ce mec-là? C'est Cémac. Si tu veux, moi j'ai un très mauvais souvenir de Cémac arrivé au
c'est les vieux démons qui parlent là, ouais, c'est vrai que
si le mec il est aussi bon que le mec il devait nous faire gagner.
Il est plus régulier que Cémac quand même, je te rassure.
Si tu veux, ça me fait vachement flipper. C'est
Cémac, il était bon, hein, après le PSG.
Ouais, sauf
et avant. Aussi, d'ailleurs.
Quand j'ai vu qu'il arrivait de Zénith, sauf chez
nous, j'ai pas un mauvais souvenir.
Merci Christophe d'avoir été avec nous.
Salut les gars.
Salut, ciao, bonne soirée. Un mot sur le Stade Rennais quand même les gars. Alors vous le disiez, c'est vrai, pas mal de bonnes intentions finalement, notamment en première période, c'est ça?
Ouais, dans un face à un PSG qui a été un peu entre les deux, dans un système voilà qui leur a moins convenu contre, alors je sais pas si c'est le système ou si c'est effectivement peut-être un Dani Alves qui au milieu avait un peu plus de mal à presser, à être là bien à la récupération au bon moment, etc. Moi j'ai vu une équipe rennaise se trouver un bloc médian, donc tu trouvais des milieux de terrain qui pouvaient se retourner et jouer un petit peu, échanger, qui ont mis en difficulté quelquefois le PSG sur les côtés notamment sur le côté de Bernat en première période. Donc voilà, un bon Stade Rennais, mais à partir du moment en seconde période où le Paris Saint-Germain a élevé son niveau de jeu, ça a été trop difficile. En plus, il y a eu les deux buts coup sur coup quasiment qui leur ont fait mal. Mais effectivement, ouais, c'est comme le disait Daniel, c'est une des équipes qui est venue avec des intentions au parc et ça a fait du bien de voir ça. Après, il faut avoir les joueurs pour aussi. Hein. T'as Grenier, t'as Ben Arfa, t'en as d'autres d'ailleurs qui techniquement au milieu sont capables à un moment donné de pouvoir jouer.
Bah, t'es censé avoir Star qu'on n'a pas beaucoup vu.
Ouais, mais non, moi je parle même pas devant, je parle plutôt au milieu, c'est-à-dire ces joueurs-là qui sont capables de prendre le ballon, de recevoir le ballon au milieu avec un peu de densité défensive, mais de le conserver, de jouer, etc. Et les Rennais ont eu ça.
Tiens, on va voir ce qu'en pense Benjamin, supporter du Stade Rennais. Salut Benjamin.
Salut messieurs, bonne année.
Bah toi aussi mon gars.
Salut Benjamin.
C'est vrai qu'on a encore le droit.
Eh là, il y a encore temps. Bon, bah écoutez, je trouve Pierre très gentil avec Rennes ce soir.
En première période, je te parle. En
ah ouais, moi je suis pas d'accord avec toi.
D'accord.
Je cite deux joueurs qui sont Grenier et Ben Arfa, qui ont été pour moi catastrophiques ce soir. Et c'est pas qu'aujourd'hui, Ben Arfa, il est pas bon.
Ah, Ben Arfa, il a été méga transparent, ça c'est vrai.
Ah, sûr, moi je suis pas d'accord avec vous, parce qu'en première période...
Ben Arfa, il était bon?
Il y a beaucoup de ballons qui sont passés par Ben Arfa en première période.
Mais Ben Arfa, il est bidon.
Ben Arfa, il vient pour remplacer Kadri, hein. Regarde ce que fait Kadri aujourd'hui, regarde ce que fait Ben Arfa.
Kadri, c'est bien au-dessus.
Si on parle, messieurs, non, moi je veux bien, Christophe, Daniel, si on parle de Ben Arfa en...
Le quoi? Lui, c'est Benjamin.
Benjamin, pardon, excuse-moi. Si on parle de Ben Arfa en règle générale ou sur l'analyse de la saison, on peut en parler. Mais là, moi je suis dans une analyse de ce soir, et notamment de la première période uniquement.
Ce soir, je le trouve pas bon, et pareil, ce soir, à l'image de sa saison, Grenier, il est pas bon. Grenier, il a été très bon 6 mois à Guingamp, parce qu'il jouait plus haut aussi en positionnement. Là, à Rennes, il est pas bon depuis qu'il est arrivé en août, et c'est sûr que c'est dommage, parce que c'est un bon potentiel. Maintenant, de voir ce que Rennes a fait en première mi-temps, moi, je suis pas trop surpris, dans le sens où, au niveau qualitatif, au niveau technique, avec des mecs comme Bourigeaud, t'as du ballon. Mais que ce soit les individualités qui sont censées faire la différence, donc Grenier par jeu de passe, Ben Arfa par les dribbles ou Sarr par la vitesse, les trois font pas un bon match ce soir. C'est quand même emmerdant que un des meilleurs joueurs en première mi-temps, malgré son tacle, c'est Mbaignan. Ça veut dire aussi quoi. Donc voilà, faut.
Ouais,
on est milieu de tableau. Faut voir ce que ça va donner maintenant, mais.
On rappelle que dans trois matchs, il y a le match face au Bétis aussi, hein, le 16ème de finale aller d'Europa League aussi.
C'est ce qu'on attend, on voit que le Bétis, bah, Fred Armel pourra vous en parler.
Oh bah, il s'ajoute le Bétis, hein.
Le Bétis tourne pas si bien que ça en ce moment. Le Bétis tourne pas si bien que ça. Mais maintenant, Rennes, faudrait qu'il se passe quelque chose d'autre. Je tiens juste à féliciter les Rennais parce qu'ils vont être 3000 à Séville. Donc voilà, on parle des supporters rennais, on a vu ce soir.
C'est vrai que c'est bientôt aussi ce match-là.
Ouais, c'est beau. Et là, il y a match contre deux matchs à domicile. D'ailleurs, trois d'ailleurs avec le match face au Bétis. Il y a la réception d'Amiens, Saint-Étienne.
Il y en a quatre. T'as Lille en Coupe de France.
Ah, il y a Lille aussi, ouais, c'est vrai.
Donc on a quatre de suite.
Ouais.
Mais non, voilà, après, ça joue à pas grand-chose dans les équipes qui suivent, hein, de Strasbourg, Bordeaux, Saint-Étienne, Rennes. On peut en faire partie, mais faut un autre Grenier, faut un autre Ben Arfa. Et puis, il faut de la réussite un petit peu. Mais ce soir, voilà, c'est un match annexe, on va dire, par rapport au reste de la Ligue 1. On fait une bonne première mi-temps, parce que Paris nous laisse jouer aussi. Hein. Faut pas être naïf non plus.
Hein. Donc, Benjamin, on n'est pas si loin que ça de la même analyse. En première mi-temps, t'as pas trouvé Rennes catastrophique et Ben Arfa, Bourigeaud, Grenier, André, même au milieu, catastrophique en première période.
Pas catastrophique, mais Grenier et Ben Arfa, pour moi, font pas un bon match ce soir.
On a jamais parlé du match. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais parlé du match. Et effectivement, en seconde période, plus personne n'existe. C'est ce que je disais. Dès que Paris a élevé son niveau, les Rennais, malheureusement, n'existaient plus. Mais en première période, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. De toute manière, contre Paris, Benjamin, il faut forcément que le PSG soit un petit peu en dessous de son niveau pour que les équipes en face en Ligue 1 puissent exister. Sinon, c'est pas possible.
En deuxième mi-temps, on leur donne des buts, Pierre.
Tu laisses des espaces énormes. Je suis d'accord.
Les relances foireuses, là. Là-bas, ils ont fait la répétition de la relance Mandanda.
Gustavo. Oh,
mais non.
Non, c'était pas Gustavo.
Europa League contre l'Atlético.
Zambonguissa, ça j'ai oublié.
Si tu veux franchir une étape, c'est sur ces détails-là où tu sais qu'il faut être sérieux. Et Rennes aujourd'hui, ça tient 45-50 minutes. Alors, ce sera suffisant contre Amiens samedi prochain. Et ça l'est pas ce soir au parc.
Merci en tout cas Benjamin, bonne soirée.
Bonne soirée Benjamin.
Ciao Benjamin.
Salut, ciao.
Tiens, une petite info également puisqu'on parlait du Bétis, info de Marca, Ressé qui devrait rebondir au Bétis prêté par le Paris Saint-Germain. Et Ressé là qui a joué une minute cette saison, c'était le match face à Strasbourg.
Je suis pas sûr qu'une minute, c'est un peu moins.
Ah, tu penses que c'est encore moins?
Avec le temps additionnel, il a joué une minute. J'étais Daniel, j'ai compté.
Il a vraiment une sale période.
Il a pas touché un ballon.
Il est vraiment dans
une sale. Parce que tu sais que sur ce temps de jeu, il a pas touché.
Si, il a touché un ballon.
Non.
Si, je m'en rappelle encore le long de la ligne de touche là. Si.
Et le ballon est dans le jeu quand il le touche.
Le ballon est dans le jeu.
On se fait un petit pari là-dessus.
Allez.
Il a touché le ballon à l'intérieur de l'aire de jeu.
Sûr, voilà. Et pendant le temps de jeu.
Fait l'arbitre de ce pari.
Ah bah oui, si vous voulez.
Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai envie de jouer quoi.
D'accord. On va demander. On va vérifier la stat. Okay. On vous attend dans quelques instants avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo pour la suite de cet after et notamment la victoire du PSG ce soir 4-1 face au Stade Rennais. À tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et C'est Pierre Ducrot et Daniel Riolo et vous bien entendu sur le hashtag RMC Live sur l'application Direct Studio, les affiches de la 22e journée de Ligue 1 de ce dimanche, le PSG qui vient de s'imposer 4-1 face au Stade Rennais avec notamment un doublé de Cavani, 0-0 tout à l'heure entre Toulouse et Angers, Lyon qui a gagné 1-0 à Amiens et puis Montpellier qui a battu Caen 2-0. On va revenir sur la prestation de l'OL dans quelques secondes. Avant, on va se faire une petite éval, tiens, sur ce match entre le PSG et Rennes. On va la faire avec Lofty qui nous a appelé au 32-16. Salut Lofty.
Salut.
Ça va, Lofty?
Salut, ça va?
Ouais, tout va bien?
Lofty chic.
Ça va, tranquille.
Lofty chic.
Comment ça s'écrit, Lofty?
Lotfi. Hein? L-O-T-F-I.
Ah, c'est Lotfi?
Lotfi.
Ah, okay. Ah, mais Lotfi. L-O-T-S-I. Ah, c'est Lotfi, donc. D'accord.
Je voilà, Lotfi. Okay. Ouais.
Ouais, ouais, c'est marrant.
C'est de quelle origine, ça?
Algérien.
Algérien? D'accord. Ok.
J'ai jamais entendu, moi, ce prénom.
Non, non, moi non plus, c'est pour ça que je demande, c'est la première fois.
Tu te l'as inventé rien que pour toi, ce prénom?
Bah, je sais pas.
c'est plutôt joli, mais ça fait
ça. Non, non, mais bon, c'est vrai. Est-ce que t'en connais d'autres ou pas?
Tu dois être le seul, mon vieux.
Bah, l'autre fait double canon. Rien,
ah, non. C'est quoi, un chanteur?
Un chanteur.
D'accord. Ah, ouais. Bon, bah voilà, tu n'es pas seul.
Ouais. Très connu.
Alors, l'autre si, Daniel Pierre, qui pour vous est le cador de ce PSG Rennes?
Le cador, c'est Cavani.
Ouais, je suis d'accord. Ouais,
je suis d'accord aussi.
Pour la confiance.
C'est le patron, c'est le patron.
Avant l'échéance. Le patron, j'aurais pas dit que c'est le patron.
Alors le taulier, c'est qui alors?
Le taulier, je pense que c'est Thiago Silva, comme d'habitude.
Ouais.
Je pense que si, je pense que s'il est pas là, ça aurait été compliqué parce qu'ils avaient des espaces quand même. Ils avaient des espaces, Rennes. Ils auraient pu nous faire déjouer ce soir. En voyant Bernat qui se prend, sincèrement, je suis pas très rassuré par Bernat. Sincèrement, je suis pas très rassuré par Bernat parce que techniquement, il est bon. Ça y a rien à dire. Dans l'envie, il y a pas de souci. Mais je trouve qu'il se fait assez prendre facilement dans le dos. Et contre Manchester, ça c'est des phases où il va falloir être très prudent, très solide, très concentré. Et voilà.
Alors on a donc Cador.
Je suis un peu inquiet, sincèrement, je suis un peu inquiet avant Manchester.
Cador, Cavani, Taulier, Thiago Silva, tout le monde est d'accord pour l'instant.
Ouais.
Si vous deviez nommer un pied carré dans ce PSG Rennes.
Bah, sincèrement, j'aurais dit Grenier.
Non, moi j'aurais dit la relance du gardien de Rennes.
Avec la relance.
Dans l'axe. Koubek.
Oui, Koubek. Enfin, la relance de Grenier aussi. Hein.
Ouais, non, mais très franchement, alors que leurs pieds ne sont pas carrés, que ce sont des super techniciens, mais les matchs de Grenier et Ben Arfa ne sont pas bons du tout ce soir.
Ah, moi je vous trouve sévère. Je vous trouve sévère.
Ben Arfa, on l'a toujours connu brouillon.
Non,
Ben Arfa. Il a envie de faire, mais.
Ben Arfa, il fait un bon match, Pierre. Putain.
Non, je t'ai pas dit un bon match. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je te parle d'une première période où Rennes est meilleur qu'en seconde et où Ben Arfa, pour moi, n'est pas catastrophique.
Non.
En tout cas, pas transparent. Mais bon, enfin, moi, j'aurais mis un Koubek juste pour sa relance dans l'axe.
C'est toujours le même débat autour de Ben Arfa.
Oui, de toute manière, oui.
Qui a plein de talent, qui a. Mais bon, il a toujours ses limites et c'est compliqué.
Le Casper de ce PSG Rennes. Mais qu'on n'a pas vu. Sarr, pour moi, on l'a vu.
Ouais, c'est possible.
Sarr, on l'a pas vu.
On l'a pas vu beaucoup.
L'arbitre, je pense que.
Ah bah si, on l'a vu. On l'a vu.
Bah si.
Non, et c'est vrai que c'est comme si on l'avait pas vu. Mais enfin bon, écoutez, sur cette action qui va faire polémique, pour le coup, on est dans l'application stricte de ce que doit être le VAR. C'est-à-dire,
il y a
faute manifeste. Va voir. Le mec, il va voir, et son interprétation est qu'il lui met pas le rouge. Eh, bah, c'est son interprétation. Voilà. Le mec, il est bigleux, j'y peux rien, moi. Mais au moins, le protocole, il a été respecté.
Ah, le protocole.
Donc, après, que ce soit la preuve que VAR ou pas, ça change rien du tout.
Parce que c'est lui qui décide.
Ça reste une interprétation, et elle peut être également fausse. Bon, bah voilà, très bien. Chaque semaine, on voit que ça sert à rien, mais bon, continuons à dire que c'est génial.
Non mais là,
je te dis,
enfin,
à part à siffler des fausses mains, maintenant.
Tu sais quoi?
Non mais vous avez vu maintenant le moindre ballon, c'est comme Denayer tout à l'heure dans le match Amiens-Lyon. Le mec, le ballon lui remonte sur le coude. Ils sont tous, tous à bondir dans tous les sens.
Tu sais
ils en peuvent plus, les mecs à Amiens. Il y a péno, va voir la caméra, il y a péno. Les mecs, ils sont en transe. Mais comment ils peuvent réclamer péno là-dessus?
Tu veux une réponse, Daniel?
Bien.
parce que Alexis Blin se fait siffler une main contre qui quand il tacle et le ballon lui revient sur la main.
Trois quarts des mains sont bidons.
Non mais attends,
depuis Calvar, on a inventé des mains. On a changé l'appréciation des mains.
Ta question, c'est comment à Amiens ils peuvent réclamer une main, parce qu'il y a 10 jours ils se font siffler la même.
Exactement.
La même. Donc
ils
se font, ils réclament.
Et je comprends le tweet de Thauvin qui dit attends, moi j'ai pris rouge contre Lille.
Voilà, il a tweeté suite à ça.
Et Nyang il prend pas, il a failli lui péter la jambe.
Mais c'est délirant.
Bah c'est bien la preuve.
Non mais c'est fou, c'est que à vitesse réelle, tu peux penser qu'un arbitre effectivement ait une mauvaise interprétation sur le tacle de Nyang, mais quand tu vois l'image à la télé, quoi, quand l'arbitre la voit, il voit bien que.
Et d'ailleurs, on a eu un moment tout à l'heure pendant l'after. On a eu Joël Quignou, notre arbitre radio.
Pendant
le match, pardon. Ça arrive très très rarement. Mais même Joël a pas compris la décision de l'arbitre.
Oui.
Il a dit là, je comprends pas. Déjà à vitesse réelle, tu lui mets rouge. Tu vois les images.
Ouais,
comment tu peux ne pas lui mettre un rouge après ça, voilà. Mais sachant que, alors, on a eu un début d'explication tout à l'heure. Voilà, j'ai reçu un petit message de Laurent Salvedon, le boss d'RMC Sport. Vous savez qu'on est détenteur avec RMC Sport des droits des compétitions européennes. Il y a une réunion qui a été faite par l'UEFA. L'UEFA a expliqué quelle allait être l'interprétation des arbitres.
Ah, je t'ai entendu en parler tout à l'heure. Voilà. Je trouve que c'est délirant comme explication.
Voilà. En fait, les mecs disent,
Genre, si le mec se relève et tout va bien. Ok.
Alors ils disent, voilà, je vous le dis, l'arbitre regarde la vidéo et juge surtout en fonction de deux critères. Le premier critère, le geste n'est pas beau, mais ils évaluent surtout la vitesse réelle, donc la 100%, au lieu des ralentis, et c'est parce que sinon ils mettraient des rouges partout en gros. Et le deuxième critère, c'est le fait que Kerrer reparte indique que son intégrité n'a pas été mise totalement en jeu,
alors moi,
donc il met jaune.
Je te fais un cas de figure.
Ça peut être juste qu'il a de la chance, le mec.
Je te fais un cas de figure. Match retour, PSG-Manchester. Paris est en passe de se qualifier, mais franchement c'est bouillant. La même faute. On est à la 60e. Kerrer, il est par terre. Moi, je suis le capitaine, je vais à l'oreille, je lui dis, mais même pas tu bouges, quoi.
Bah ouais. Tu sors.
Tu bouges, tu sors. L'autre, il prend carton rouge et Meunier, il rentre et tu joues à 11 contre 10.
La phrase que tu lis, elle est terrible parce que ça,
tu peux blesser un mec sans faire gaffe, parfois.
Ça, et puis l'inverse, tu peux faire un attentat et que le mec ait juste de la chance de s'en sortir sans être blessé.
Bien sûr.
Tout simplement.
Non, mais après, c'est juste une question de réussite, quoi. Ce qui veut dire par là. Mais d'ailleurs, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Il y a des arbitres déjà qui sont revenus sur leur décision en voyant que la blessure du joueur était plus grave, genre une fracture ouverte. Mais un jaune, il voit, il se dit,
grave n'est pas forcément l'acte d'un attentat intentionnel.
On en parlait tout à l'heure,
on fait du surrèglement, de la surinterprétation, on invente des concepts et tout, alors que, mais franchement.
Mais où va le football?
Exactement. Tu as bien raison, Pierre.
On remercie Lofty, en tout cas, qui nous a appelé au 32-16. On rappelle donc victoire du PSG 4-1 face au Stade Rennais ce soir. Autre match de ce dimanche, la victoire de Lyon à Amiens 1-0. Alors, un seul but dans ce match, Denayer à la 51e. Voilà, but sur corner. Et puis Lyon, voilà, qui grappille ses petits points. Lyon qui est toujours là au classement. Les Lyonnais qui sont 3e. Alors, je vais ressortir le classement. Ils sont à 3 points des Lillois, les Lyonnais. Et ils ont 4 points d'avance sur Saint-Etienne, sachant que les Verts comptent un match en moins que les Lyonnais.
Voilà. Ils sont en route pour finir 2e. Ils ont entamé leur seconde partie de saison où ils deviennent de plus en plus implacables. Alors,
et pourtant, Amiens n'a pas été dégoûtant dans ce match-là.
Exactement. Oui, encore une fois, Anthony Lopez est décisif. Et que Amiens, comme tu l'as dit, franchement, en une ou deux occasions, ils auraient pu marquer.
Ils jouent mal deux, trois coups offensivement.
Je vais avoir la faiblesse ou prétention de penser que même si Amiens avait marqué, Lyon aurait encore élevé le niveau et serait
peut-être possible.
Ils sont entrés maintenant dans la phase de contrôle. Ils maîtrisent pas complètement les matchs, mais tu sens qu'il y a une domination qui commence à se faire plus globale en Ligue 1. Comme chaque année, de toute façon, on connaît.
Parce que tu vas approcher de l'échéance.
Ils ont des joueurs qui leur permettent d'être largement au-dessus en Ligue 1.
Oui, puis ils vont y aller. Deuxième place,
ils vont finir deuxième. Ils vont rattraper Lille petit à petit, tu vois, ils vont en gros fondre sur eux.
Je te coupe, il y a Thomas Tuchel qui est en conférence de presse et qui est en train de parler de Neymar justement.
Le médecin m'a dit qu'on doit attendre une semaine plus, on doit attendre la réaction de Ney par rapport au traitement. Oui, ça c'est la situation.
Ouais, il n'a pas voulu confirmer officiellement encore l'absence de Neymar pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions, Thomas Tuchel, et qui est en direct en conférence de presse.
Ça va être super compliqué, super difficile, ça c'est clair. Mais oui, j'espère. Et je ne perds pas ma confiance, mais ça va être super difficile, c'est clair.
Voilà, la réaction donc de Thomas Tuchel à la blessure de Neymar, qui donc devrait être absent pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions, on le rappelle. On parlait de l'OL.
Il a un pull de très belle qualité. T'as remarqué ou pas?
Non, j'ai pas fait gaffe, toi.
Bah, attends, mais
pourquoi,
gars,
qu'est-ce qu'il avait?
Très très belle, très beau tissu.
Ah ouais, vraiment? Ouais, alors, belle maille.
Une maille. Pas la maille, c'est.
Ouais. Bah, c'est, y a de la maille, quoi, dedans.
Ouh là, c'est de la boutique. Ouais. C'est pas, non, c'est il du, a pas chance seul.
C'est au moins du 8 fil.
Ouais, il est pas mal, ouais. Bah, ouais. C'est sobre, quoi.
Ah non,
là, on dirait que la version sur RMC Sport News.
Très 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 quali, là.
Ouais.
Bon,
je crois les têtes.
Voilà.
Bon. Mais il y en a qui peuvent et qui n'y arrivent pas.
C'est vrai. T'as raison. Le goût, pas forcément une affaire d'argent.
Lyon, donc. Vainqueur à Amiens 1-0. Vous en étiez où, les mecs, là?
On était en train de dire que Lyon devenait implacable petit à petit dans ce championnat. Ouais. Ce qui ne devrait même pas nous étonner, parce que l'écart de niveau, c'est marrant parce que quand tu le dis du PSG, c'est tout le temps évident. Ah, oh, le PSG, ils ont plein de fric, ils sont. Alors effectivement, c'est carrément démesuré par rapport à la Ligue 1. Mais Lyon, par rapport au reste de la Ligue 1, c'est également une avance qui est énorme en termes de moyens. Ouais. C'est par rapport à Amiens. Mais par rapport à l'ensemble de la Ligue 1 même. Et t'as très peu de clubs qui sont au-dessus de 80 millions, y en a 200 de plus à Lyon, quoi. Ouais, ouais. C'est finalement quelque part logique. Mais je sais pas pourquoi ça paraît moins logique quand c'est Lyon.
Non, après, est-ce que
non,
cette,
alors, c'est normal.
Ils le font peut-être souvent, remarque, mais est-ce que cette première partie de saison, elle est aussi un peu plus dure parce que t'as les phases de poule de Ligue des Champions?
Mais parce qu'ils le font, parce que chaque année, ils rament dans les débuts, mais après, quand ils se redressent et qu'ils enchaînent, mais là, ils vont enchaîner les victoires, je pense.
Ouais, je suis
vois assez pas, d'accord avec toi. Il peut y avoir rechute. Bon, alors, le week-end prochain, ils ont le match contre le PSG.
Après, il y a déplacement à Nice, il y a Guingamp, Bordeaux, et puis le match face au Barça en Ligue des Champions.
Non mais là
après peu importe les marches, alors,
ils ont pas d'inquiétude à avoir, ils commencent. Alors ils ont rechangé, ça c'est un truc.
Ça dépend d'eux surtout.
Ils changent tout le temps, quoi. Eux, ils changent tout le temps. À 4, à 3, à Fekir plus 3, Fekir, bon, voilà. Je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit maintenant pour la Ligue 1, ils peuvent jouer n'importe comment, ça passera, sauf que on va voir déjà contre le PSG comment ils se présenteront. J'ai du mal à imaginer qu'ils reviennent pas à un truc à 3 derrière et qu'ils se mettent pas en config Ligue des Champions.
Avec c'est-à-dire deux mecs sur les côtés qui font la défense à 5.
Tu le vois contre le PSG avec Fekir plus Memphis Dembélé et Cornet.
Et ce serait intelligent.
Je crois pas qu'il joue comme ça. Il va s'adapter forcément.
Bien sûr.
Mais en Ligue 1, peu importe comment, ça
Mais ce qui est vrai avec le PSG au niveau tactique, adaptation au cours d'un match à l'autre, pourquoi ce serait pas vrai aussi pour Lyon, avec un des progrès de l'OL.
Pour le PSG avant Manchester, ça serait intéressant le match de dimanche prochain pour le coup.
Oui, c'est un bon test pour eux.
Et j'espère qu'il faut qu'il le joue vraiment sans image, parce que il peut y avoir un problème.
Paris ou Lyon, tu veux dire?
Non, Paris, pas qu'il le joue pas vraiment, c'est pas exactement ça que je veux dire. C'est que à force de penser continuellement à ce match-là et avec l'idée que Neymar s'est blessé et tout, et de pas vouloir justement se blesser,
plutôt que
de se servir de ce match pour le jouer, justement, tu sais, comme on dit, tu t'entraînes comme tu joues, parce qu'il faut être à fond tout le temps, il faut pas avoir peur de la blessure. T'as peur de la blessure, c'est le meilleur moyen pour te blesser, justement. Bah, qu'ils y aillent vraiment dans... Bah,
après, t'as certains joueurs qui sont sûrs de jouer le match contre Manchester, voilà, Mbappé, Cavani, peut-être même Di Maria,
Di Maria est quasiment sûr.
Après, t'as des joueurs qui ont intérêt plutôt d'être bons contre Lyon, notamment au milieu de terrain. Sur les côtés, on en parle, hein, mais Meunier, Alves, Meunier, Kerrer.
Si Verratti revient pas, tu...
Kimpembe a intérêt d'être bon, tu vois. Il y a des joueurs qui ont un intérêt aussi à être bons pendant ce match-là.
Tiens, accueillons Nicolas, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Alors Nicolas, t'es d'accord avec Daniel, toi tu vois Lyon terminer également deuxième, à l'issue de la saison.
Bah, je suis d'accord quand Daniel dit, puis vous, quand vous dites en général que la saison de Lyon, elle est déjà terminée, plus ou moins, parce que la Ligue des Champions, on pense que le Barça, ça va être la fin, et ça me paraît logique. Le championnat, on sera sur le podium, quoi qu'il arrive, deuxième à mon avis, mais je pense qu'on tient le podium avec Lille. La seule incertitude, c'est la Coupe de France, à la limite. Il n'y a que là où je me demande si on peut aller au bout et où ça ferait une vraie plus-value à la saison. Mais pour tout le reste, c'est plié, quoi. Lyon, ils sont sur leur dynamique, comme à chaque fois en deuxième partie de saison. Ils sont lancés et du coup, jusqu'au mois de mai, je pense qu'ils feront beaucoup moins de faux pas qu'en première partie de saison. Alors que Lille, je pense qu'ils vont sûrement s'arrêter. Eux, c'est un sprint, mais je pense qu'ils vont s'arrêter à la fin.
Ah, voilà. Maintenant, pour faire... Je vois personne faire tomber Lille du podium maintenant. Alors, Lille, c'est quand même très sérieux, très cohérent. C'est vraiment très bon ce qu'ils font.
La deuxième place sera compliquée parce que
ça va se jouer.
Il est sympa leur calendrier à Lille aussi.
Il y a
Nice, ils ont match de Coupe de France à Rennes, ils vont à Guingamp.
Mais ça va se jouer.
Montpellier,
il va y avoir le face à face. Lyon et Lille. Voilà.
C'est quoi
il est prévu quand,
c'est Lyon-Lille, Lyon-Lille ou Lille-Lyon?
Je vais te le dire tout de suite. Oh, c'est pas tout de suite les mecs ça.
Non mais c'est où? C'est
Ce sera au mois de mai hein. Ce sera Lyon-Lille.
Lyon-Lille?
Ouais.
Sur la fin.
Ouais.
Ouais, mais ça peut être
être la finale.
Ouais. Ouais. Bah, d'ici là, il y en a des matchs.
Hein, généralement, même, Lyon s'en sort toujours bien dans ces cas-là.
Ouais.
Ouais, et puis même, je pense vraiment que Lille est en surchauffe, même si c'est impressionnant. Ils ont quand même plus l'effectif pour Lyon, pouvoir venir, donc je leur fais confiance là-dessus.
Lille a toujours pas perdu de joueurs, là. Le mercato se termine le 31, c'est quand? C'est mercredi?
Mercredi.
Ouais. Mercredi. Ouais.
Non, pour l'instant. Après, il l'avait annoncé, hein. Il l'avait annoncé.
Ouais, mais Thiago Mendes devait partir.
Alors, il y a Thiago Mendes, oui, mais ils avaient dit qu'en gros, il y avait pas de...
Ouais. Ah, non, mais c'est très bien.
C'est l'équilibre du milieu,
s'ils perdent pas de mecs,
moi, j'ai très, très peur.
Là, pour la deuxième place, ils peuvent aller au bout.
Non, on en a déjà parlé pas mal ici.
C'est bien ce que fait Lille, quand même. Il joue très, très bien.
Mais l'été,
l'été, c'est autre chose,
parce que, attends, les joueurs vont partir, mais je pense qu'il n'y a pas que les joueurs.
On en a parlé déjà à partir de septembre.
Mais l'été, on s'en fout. On parle de cette saison. Oui, non, mais t'as même Campos qui va se barrer. Donc, Lille, ils sont, il faut qu'ils croquent cette année s'ils ont besoin de croquer, quoi.
On en a parlé déjà dès septembre et vous me disiez déjà, attention, parce qu'ils vont commencer à plus jouer, parce que ils vont vouloir partir cet hiver, etc. Moi, je suis persuadé, je le reste depuis le début de saison, que ces mecs-là vivent quelque chose de vraiment sympa ensemble,
qu'ils aient vraiment envie
d'aller au bout pour le vivre ensemble. Et en plus, s'ils sont pas complètement idiots, et je pense qu'ils sont pas complètement idiots, le vivre à fond jusqu'au bout va leur permettre cet été effectivement pour 4-5 d'entre eux de partir très confortablement
après,
ailleurs.
Ça va être,
Merci Nicolas d'avoir été avec nous.
Bonne soirée
à bientôt Nicolas, dans quelques instants supporter de Montpellier ou de Caen d'ailleurs, on vous attend au 32-16. Victoire du Montpellier au Sport Club face au Stade Malherbe de Caen tout à l'heure, 2-0, l'abord des bases contre son camp ont marqué dans ce match. À tout de suite avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas,
accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Le PSG s'est imposé ce soir 4-1 face au Stade Rennais. Lyon a battu Amiens 1-0 cet après-midi, 0-0 entre Toulouse et Angers. Et Montpellier a battu Caen 2-0. Les buteurs, Laborde à la 51e et Bayes contre son camp à la 59e. Alors Montpellier qui se relance. Ils n'étaient pas dans une très bonne dynamique, les Montpelliérains. Ils restaient sur 6 matchs en victoire. Ils reviennent à hauteur de Strasbourg au classement avec 35 points. Ils sont 6e, les Montpellierains. Ils ont même un match en moins.
Petite baston pour la zone UEFA qui est pas mal.
Pas mal, non, ça.
Ouais,
pas forcément les mecs qu'on attendait.
Bah, c'est très ouvert là pour le coup.
Ouais. Ce que vous avez pensé de ce match?
Moi j'ai bien aimé.
Moi j'ai trouvé très tranquille Montpellier.
Ouais, voilà. J'ai bien aimé. Sauf qu'en face t'as un camp qui est. Paradoxalement, pendant une demi-heure, camp joue pas mal, mais c'est très inoffensif malheureusement.
Ah, écoute, franchement, le réalisme de Beige devant le gardien, c'est pas mal.
Putain, c'est en plus c'est deux tibias, hein, parce que t'as Bayes qui met le sien, mais t'en as un autre.
Un pareil, c'est pas mal.
Il y en a deux, un joueur qui prennent du tibia sur cette action-là. Deux défenseurs canés. Hein.
Franchement, moi j'ai
toujours 17e quand.
J'ai toujours eu énormément d'affection pour ce joueur et la dernière fois que je l'ai vu bon, c'est l'année à Nice où il y avait Favre, ils sont bons et
tout. Il était bon.
Mais là, franchement, il est à la cave complète, le pauvre Bayes, quoi. Vraiment, il est plus vraiment.
Mais bon, alors,
j'aime beaucoup
dit,
ce joueur.
Pour parler du match de Montpellier, moi j'ai bien aimé parce qu'une fois de plus, t'as les valeurs de Montpellier qui ressortent. C'est-à-dire que même quand Caen est un petit peu bien, je tempère. Hein. La première demi-heure, Montpellier est tranquille, solide. Et puis après, t'as la Borde,
Mollet.
Comment il s'appelle?
Mollet.
Non, le Mollet qui est très bon, mais avec la Borde devant, c'est pas possible.
Bah
Delors, merci Daniel, qui sont bons, qui se trouvent bien, en plus Montpellier, il y a 2-3 contres,
oui.
Où honnêtement, ça doit faire 4-0 facile quoi, parce qu'il joue mal, les coups. Mais dans le jeu, tu sens que les mecs sont bien ensemble, ça se trouve, ça joue. Voilà, je crois que
dans un carré, en plus, ça a totalement pris conscience que cette année là, maintenant, il y avait plus à se cacher, il y avait plus à...
Non, Montpellier joue au foot,
le recrutement, il fait beaucoup.
Montpellier joue au foot, le joueur devant
aussi. Je veux dire, dans les ambitions du club, je pense pas qu'il démarre la saison avec l'idée de terminer européen. Je sais pas.
Ouais, faire saison
pénale, j'ai pas l'impression. Mais là,
il termine bien la saison dernière.
Comme c'est open, mais dis-moi un petit peu là. Moi, je suis à Nice, j'y crois. Alors après, quelles sont les places qui vont... Alors, c'est quoi jusqu'à la cinquième?
Ça dépend après des coupes.
Des coupes. Non, des coupes, c'est mort. Attends.
Mais non. Ça dépend des coupes. Si jamais le mec il est déjà qualifié via le championnat, tu vois ce que je veux dire?
Strasbourg, ils sont dans le coup, aussi bien en Coupe de la Ligue qu'en championnat. Mais tu vois, par exemple, pour la cinquième place, t'as, même pour la quatrième, Strasbourg,
Saint-Étienne. Voilà, t'as Saint-Etienne, 36
nice,
points.
Strasbourg,
Montpellier. 35. Montpellier, 35. Nice, 34. Marseille et Reims, 31. Et Rennes,
il y a un
30.
Petit trou avec Marseille. Mais
il y a 3 points. Enfin,
mais
il y a 3 points.
Ouais, non, mais par rapport
avec
aux
la
4e
place.
Par rapport aux autres, il y a quand même un petit trou.
Ouais. Mais il y a des matchs en retard dans
tu
tout
peux
ça
pas
aussi,
complètement hein. Les condamner.
Ouais, c'est clair.
Tu vas condamner complètement l'OM. Tu peux pas
exclure. Non, parce qu'attention, Marseille a 21 matchs. Voilà. Un match en retard, quoi.
Montpellier aussi.
Montpellier aussi.
Là, c'est autant le podium me semble bien bouclé, autant quatrième.
Ouais, quatrième, cinquième.
Très très ouvert.
Bah podium 4, 5, après entre Lyon et Saint-Té, t'as 4 points d'écart, mais Saint-Té compte un match en moins aussi. Hein.
Ouais, non mais ça, ouais, ça va être serré.
Je vois pas Lyon maintenant s'arrêter là. Ça va être serré. Là.
Tiens, on va accueillir Yannick, qui est supporter de Montpellier.
En tout cas, ouais, pardon. On va accueillir Yannick, mais moi mon ressenti cet après-midi devant le match, c'est que Montpellier est régulier, quoi. Dans son football, maintenant, Montpellier joue au foot et est régulier là-dedans. Alors, c'est quand en face, on va me dire que c'est que quand en face, mais peu importe.
Non, c'est méga faible.
Oui.
Moi, mais... si je suis monégasque, le seul espoir que j'ai, c'est de voir Caen jouer. Je me dis, putain, on est peut-être pas mort, parce qu'il y a Caen.
Ils sont 3 points devant, là.
Non, mais
ils sont 3 points devant, avec Amiens.
Ils sont derrière.
Justement.
Ils sont 17e, Caen. Ils ont une meilleure différence de
Amiens. Ils sont à un point, derrière.
Écoute, Caen, je suis plus rassuré qu'Amiens. Si je suis Monaco, je suis monégasque, je regarde, je dis quand.
Oui, quand ça, tu vas ça bien, peut finir là. Bien contre Lyon voilà. Cet après-midi.
Salut Yannick.
Bonsoir messieurs.
Comment il va Yannick?
Salut Yann.
Bah écoute, ça va. Alors est-ce que t'es confiant, tiens toi, pour les places européennes pour Montpellier?
Bah, confiant, pas, enfin oui un petit, pas plus que ça parce qu'après c'est quand même. Enfin, ça va être très disputé. Je suis plutôt confiant par rapport effectivement à nous ce qu'on produit sur le terrain, parce qu'effectivement, on faut voir qu'on sortait quand même d'une passe un peu difficile entre un calendrier très compliqué en décembre et là c'est le premier match qu'on jouait à la Mosson en 2019. On a fait que des déplacements jusque-là et du coup c'est vrai que là on a bien réagi. On était un petit peu dans le dur ces derniers jours et c'était vraiment super important de prendre les 3 points aujourd'hui. Parce que ça nous permet surtout d'arriver avec pas de pression sur le prochain, avec moins de pression sur le match de dimanche prochain, quoi. Parce que dimanche prochain, c'est le déplacement aux Costières. Et là, ça va être, il fallait pas que ça soit chargé non seulement par le côté un peu double tranchant, il faut marquer des points et en même temps le derby, quoi. Mais, pour le top 5, je pense que c'est faisable, franchement. Après, bon, il y a des équipes qui sont, Saint-Etienne, c'est costaud, hein. Mais je pense que toutes ces équipes, ça va se jouer à des détails, quoi. Genre, si Saint-Etienne, ils perdent Cazri, ben, ils feront pas top 5. Sinon, on a Delors qui se blesse, bah, ça va être compliqué aussi. Donc, ça va être celle qui va avoir le plus de réussite, je pense, tout simplement, parce qu'on est à peu près tous au même niveau, je pense, là, sur la lutte pour les places européennes.
Mais c'est vrai que ça va s'annoncer sexy, hein, cette course à l'Europe.
Ouais, il y a pas mal d'équipes qui vont lutter. Ouais. Après, on va voir, on dit toujours ça, on est fin janvier, il suffit
qu'il y ait c'est plié, ouais.
Oui, voilà, on peut pas anticiper, mais il suffit qu'il y ait un passage à vide avec une série de 3-4 matchs sans pour une de ces équipes, elle sera larguée. On va voir, mais c'est pour ça que je vous dis que moi, Montpellier, ce qui me plaît, c'est
mais
peu importe
pas
le match, Montpellier a gagné en régularité, je trouve.
Quoi, machin, le suspense, c'est beau.
Non, c'est la lutte.
Je dis, non, mais même pas, je dis, si je suis un acteur de ces clubs-là, je me dis que c'est carrément jouable. Donc, c'est ça qui rendra peut-être la course sexy, c'est que tout le monde, toutes ces équipes peuvent y croire. C'est ça qui est intéressant. Après, savoir qui va le faire, est-ce que ça va craquer dans 2 semaines? On verra bien. Oui. Mais en tout cas, si je suis dans ces clubs-là, je me dis, il y a un truc à faire.
Merci Yannick.
Merci à vous.
Bonne soirée, à bientôt Yannick. Voilà, il y avait un autre match également, le fameux Toulouse-Angers. Alors un match très bizarre. Il y a deux pénaux.
Mérite vraiment qu'on en parle. Ça.
Alors vas-y.
Ce match pourri.
Ouais.
Non, ben moi non.
Mais je voulais juste dire qu'il y avait deux pénaux au match raté. Voilà, c'est tout. Ouais. Bah, Okan et Gradel. Je vais vous donner les infos du jour également. Petite précision, tiens, on disait Lille n'a rien fait pendant le mercato, n'a vendu personne. Bah si, Chris nous le rappelle sur le hashtag RMC Live. Ah oui, il y en a un qui a été vendu.
Ah oui, Touré.
Ah
oui,
Touré.
C'est
compliqué, mais il a été vendu quand même.
Non, mais c'est un bon joueur, il a raison.
Transition toute trouvée, les mecs. Petites infos du jour également.
On s'en pas souvenu de ça, quand même.
Ouais. Autre arrivée du côté de Monaco, ça a été officialisé aujourd'hui. Gelson Martins prêté par l'Atlético de Madrid. Voilà, il a fait 12 matchs, seulement avec les Colchoneros, l'attaquant portugais de 23 ans, qui arrive donc du côté de Monaco. Morata, qui aujourd'hui a passé sa visite médicale à l'Atlético, justement. Alors, il va être prêté là-bas par Chelsea également. C'est lui qui va remplacer, Diego Costa, qui est blessé. Voilà, Frédéric nous avait expliqué ça également dans l'after. On vous l'a dit tout à l'heure, selon Marc Arrécé, devrait être prêté également au Betis. Les proches d'Emiliano Sala, vous savez, qui ont lancé une cagnotte hein, pour financer le prolongement des recherches. Alors, elle a dépassé les 300 000 euros. Il y a beaucoup de joueurs, d'ailleurs, beaucoup de joueurs pros qui ont fait un don. Et le responsable de ces recherches qui envisage eh bien, des recherches sous-marines pour essayer de retrouver la carcasse de l'avion, puisqu'ils n'arrivent toujours pas à savoir où le drame a pu avoir lieu.
Je trouve ça fou, cette histoire, parce que cette cagnotte, oui, c'est d'accord.
L'intention est bonne.
Voilà, enfin, je veux dire, on peut pas malheureusement, on va pas le retrouver vivant. C'est pas possible. Hein,
ça
on est bien d'accord là-dessus.
C'est compliqué, oui.
Donc, oui, il est évident. Non,
mais tu peux pas enlever cet espoir à la famille tant qu'on l'a pas retrouvé, tu vois.
Oui, ce qui est dur, c'est de pas savoir. Oui.
Non, c'est pas tant ça. C'est plus que pour la famille. Tu te dis, ne serait-ce que d'avoir le corps, tout simplement.
Bah, ou la carcasse de l'avion.
C'est important pour les familles qui voient disparaître quelqu'un. Ouais. L'idée qu'il a disparu.
Ouais, c'est terrible.
C'est terrible. Au moins, si tu le retrouves, même mort, c'est là que tu peux initier ton deuil. Donc, je comprends qu'on fasse ça. Après, est-ce qu'il faut tout cet argent? Est-ce que l'argent peut aller à la famille? Est-ce que la famille en a besoin? Est-ce que
Là, c'est pour les recherches, hein, vraiment. Hein.
Oui. Pour les recherches.
Oui, ouais. Non, c'est pour les recherches.
Ouais. Non, c'est pour les recherches.
J'ai bien compris. Oui. Ça paraît presque beaucoup, quoi. Je sais pas. Je connais pas.
Non. Parce que je pense que les recherches coûtent très cher.
Mais le minimum, c'était 150 000 euros déjà pour les relancer. Là, ils ont
très cher.
Voilà, ils ont relancé une cagnotte pour pouvoir continuer.
Si ça peut aboutir.
Non, il y a deux bateaux. Enfin, il y a toute une logistique qui est mise en place.
Pour ce qui est d'espoir, malheureusement, qu'est-ce que tu veux? Qui se passe, quoi. Là, on serait au-delà du miracle.
Et vous savez qu'il y a une info également qui avait circulé hier, comme quoi Bordeaux avait réclamé les fameux 50% qui lui sont dus finalement à son transfert. Bordeaux a démenti cette information aujourd'hui. Je cite d'ailleurs le FC Girondins de Bordeaux dément formellement l'information parue dans le journal Presse Océan selon laquelle le club aurait réclamé son dû à l'occasion du transfert d'Emiliano Sala. Dans les tristes circonstances actuelles, les Girondins de Bordeaux expriment leur soutien à la famille et aux proches d'Emiliano Sala. Voilà.
Ah, les infos pires qui sortent là-dessus, en ce moment, faut les prendre. Voilà. Pire qu'avec des pincettes.
Voilà, le club en tout cas a démenti. Dans quelques instants, le RMC Poker Show, je vous rappelle les résultats de la 22e journée de Ligue 1 de ce dimanche. Le PSG qui a battu Rennes 4-1, match que vous avez suivi tout à l'heure avec notamment le début signé Cavani à deux fois, Di Maria, Mbappé et Niang pour le Stade Rennais. 0-0 entre Toulouse et Angers. L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 1-0 au Stade de la Licorne à Amiens. Et puis Montpellier qui a battu le Stade Malherbe de Caen 2-0. Nous on se retrouve demain, bien sûr, pour l'after des 22h avec les drôles de
nous abandonne demain soir, les amis.
T'es pas là, toi?
Ouais, pas demain.
Sans déconner.
Ouais, mais parfois, il faut...
Tu vas où?
Une petite relâche.
Ouais. Je suis vacances?
Je te le dirai mardi.
Ok. Mais tu vas pas
mardi,
le
tu me diras...
C'est dommage, Fred, je fais pas un avis tranché sur Karim Benzema.
Ah oui, putain, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire.
Un super match.
Bah oui, mais qui a marqué un
doublé. Tu sais que c'est vrai, en plus, beaucoup, il a fait un vrai match.
Oui, c'est vrai. Très bien.
Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Suzanne. Merci, Cyprien. Merci à toutes les équipes techniques. Et nous, on se retrouve demain. Et vous restez avec nous. Il y a le RMC Poker Show qui arrive dans quelques instants.
RMC Football Show, l'After Foot.